Bonjour à tous et merci d'être fidèles à France Bleu Isère. Portrait d'Isère, coup de projecteur sur la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et de l'environnement en Rhône-Alpes, qui nous invite à protéger bien sûr, mais aussi à redécouvrir la nature. La FRAPNA fédère plus de 200 associations, elle compte plus de 50 000 adhérents. La FRAPNA Isère, elle, regroupe une soixantaine d'associations et 500 adhérents. Parmi ses membres, Éric Breton, il est responsable administratif et financier, il est aussi photographe naturaliste, sa passion, la nature bien sûr en général, les animaux en particulier et encore plus particulièrement le bouquetin qui lui assure de belles insomnies. Et quand il ne chasse pas le bouquetin avec son appareil, il traque toujours avec son appareil l'ours quelque part en Finlande. Éric Breton est notre invité dans Portrait d'Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Éric Breton, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre vie de photographe animalier vous fait faire des rencontres extraordinaires. On va bien sûr en parler, mais avant d'aborder cette vie trépidante, on va revenir sur la FRAPNA, qui est une association qui existe depuis plus de 40 ans, 44 ans, hein, Éric Breton.
Oui, tout à fait.
Donc, on a bien compris que son objectif, c'est de protéger la nature, mais c'est aussi de nous la faire redécouvrir. Alors, comment vous y prenez-vous, Éric Breton?
Alors, il y a plusieurs façons de faire. Nous, ce qu'on aime bien, c'est emmener des gens dans la nature en sortie pour leur faire redécouvrir des endroits, par exemple. Ce qu'on aime faire aussi, c'est donner des clés, donner des façons de faire aux gens pour qu'ils puissent renaturer leur jardin autour de chez eux. Par exemple, replanter des plantes indigènes, des plantes locales dans leur jardin, au lieu de se servir de cultivars exotiques qui servent à rien pour la biodiversité.
Alors d'ailleurs, à ce propos, vous venez de sortir un guide.
Alors on a sorti il n'y a pas très longtemps le guide des plantations, donc qui explique justement comment remplacer les espèces exotiques par des espèces locales. Comment on peut remplacer un forsythia, par exemple, qui n'est d'aucune utilité pour les insectes, par un sureau qui va leur fournir du pollen pour les abeilles et puis également des fruits pour les oiseaux.
Alors, la FRAPNA sensibilise la population. Quelles sont les campagnes que vous menez en ce moment, Éric Breton?
Alors, en ce moment, on a le Festival international du film Nature et Environnement qui est en tournée auprès des écoles de toute l'Isère. Il y a une tournée qui va se dérouler, par exemple, du côté de Voiron, tout début mars, où là, on va parler de tout ce qui est réchauffement climatique, avec, par exemple, le film La glace et le ciel de Claude Lorius, sur la vie de Claude Lorius.
Éminent glaciologue, voilà, isarois,
ouais.
Faut-il le rappeler?
Oui, tout à fait, oui. Et puis, ces films sont accompagnés d'un dossier pédagogique à disposition des instituteurs, de façon à ce qu'ils puissent faire une séance avant dans les écoles pour expliquer aux enfants, et puis une séance après pour débriefer, leur expliquer. Et décrypter le film et faire vraiment tout un dossier pédagogique pour que les enfants s'approprient vraiment ces sujets aussi, quoi.
Alors, à préciser justement, Éric Breton, que ces films sont à disposition des associations, des équipes pédagogiques.
Tout à fait. En ce moment, gratuitement, pour le festival décentralisé qui se déroule jusqu'à fin mars, les associations ou les communes qui ont envie de faire une séance peuvent appeler à la FRAPNA et on les guidera pour organiser une séance chez eux tout à fait gratuitement. Il n'y a que les droits SACEM à payer, ce qui est une trentaine d'euros. Ce qui est vraiment pas grand-chose pour les enfants de leurs écoles, de façon à ce qu'ils puissent voir ces films et profiter de tout ce dossier pédagogique.
Oui, alors donc on évoquait le film de Claude Lorius. Il y a d'autres films aussi.
Il y a un film sur la vie d'un flamant rose en Camargue qui s'appelle Pink. Il y a un film qui s'appelle Paola Poule Pondeuse sur la vie d'une poule pondeuse dans un élevage en batterie et comment elle s'échappe de cet élevage de batterie.
Ah oui.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est du vécu.
C'est de l'animation, donc c'est assez sympa pour les enfants, mais ils ont bien aimé. Moi, si c'est des sciences, ils aiment bien ça. Et puis, il y a un film aussi, 100 ans avant, 100 ans après, qui explique la vie d'un bousier, qui est un petit insecte qui mange des bouses, tout simplement, et qui émigre d'Égypte jusque chez Jean-Henri Fabre, dans le Vaucluse. Jean-Henri Fabre, qui est un éminent entomologiste du siècle dernier.
Alors, autre actualité de la FRAPNA, les Sentinelles de l'Environnement, que vous avez mis en place, c'est un site internet. Alors, expliquez-nous à quoi ça sert.
Alors, le site des Sentinelles, c'est non seulement pour signaler une atteinte à l'environnement, ça peut être un affichage sauvage, ça peut être une décharge sauvage, donc les gens constatent une décharge, par exemple, le signal sur le site, et le site va leur fournir également des outils pour essayer de résorber cette décharge.
Ah bon, c'est la personne qui dénonce qui doit se débrouiller.
Qui doit aussi, pas seulement se débrouiller, mais qui peut aussi prendre en charge les choses, parce que souvent, c'est la personne locale, le correspondant local, qui va d'abord le mieux avoir la motivation pour ça, et puis qui va pouvoir le mieux prendre les choses en main, qui va pouvoir aller voir son maire, et on va lui donner tous les outils. Alors, si c'est difficile ou trop compliqué, on va prendre la main, et on va bien sûr aider les gens. les gens. Mais souvent, c'est assez simple, en fait, de résorber une décharge sauvage. On l'a fait, par exemple, du côté de la Buisse, du côté du Grand Rat, avec une association qui s'appelle le Pic Vert, où il y avait là-bas une décharge sauvage, dans une ancienne carrière de pierre de taille. Cette décharge, on a organisé un chantier bénévole où on a nettoyé la décharge, on a sorti toute la ferraille et tout ce qu'il y avait à sortir de là. Et ensuite, on s'est dit, si on laisse le site en l'état, eh ben, il va revenir à l'état de décharge. Les gens vont reposer des saletés dedans. Donc, on a décidé de faire une mare avec l'aide de la mairie de la Buisse. On a fait une mare pédagogique. Hein. On a mis une bâche, on a creusé un trou, etc. Et puis, devant cette mare, on a construit une cabane d'observation avec des vitres sans teint. Donc, vous pouvez être dans la cabane. Vous êtes à l'abri, vous ne dérangez pas les animaux. Et vous pouvez voir des espèces qui viennent se baigner, qui viennent manger parce qu'on met quelques graines. Vous pouvez voir un geai, par exemple, qui est un oiseau magnifique, bleu, qui va se baigner dans la mare devant vous à 3-4 mètres. Également faire des photos, bien sûr, pour les gens, ou des petits films pour les gens qui le désirent. Donc ça permet d'être immergé dans la nature sans la déranger.
Voilà comment une décharge devient un site d'observation de la nature. C'est extraordinaire ça. On précise d'ailleurs, Eric Breton, que vous recherchez des bénévoles pour ces sentinelles de l'environnement.
Tout à fait, oui. Tous les gens qui ont envie d'être bénévoles, tout est indiqué sur le site de la FRAPNA, sur le site internet.
Qu'on mettra sur le site francebleu.fr, n'est-ce pas? Vous restez avec nous, Eric Breton. On va reparler un petit peu de la FRAPNA. On va parler aussi des animaux que vous avez traqués avec votre appareil. Ce sera juste après Jane Birkin et Serge Gainsbourg sur France Bleu Isère.
France Bleu Isère, on est bien ensemble.
je viens.
Je t'aime, moi non plus, Jeanne Birkin, Serge Gainsbourg sur France Bleu Isère. Et si vous circulez sur la Nationale 85 dans le sens Grenoble-Vizil, on nous signale un accident au niveau de Pontlé. La route est donc coupée. Une voie est concernée. Soyez prudents, levez le pied, puis évitez ce secteur si vous le pouvez. Donc sur la Nationale 85 dans le sens Grenoble-Vizil au niveau de Pontlé. Si vous êtes témoin de cet accident, n'hésitez pas. 04 76 46 45 45. On fait la route ensemble sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Et nous recevons aujourd'hui Éric Breton. Nous rappelons que vous êtes responsable administratif et financier, c'est bien sérieux tout ça, de la Frapna Isère, qui fédère donc une soixantaine d'associations. La protection de l'environnement, ça passe par l'information. Et vous avez mis au point récemment des outils pédagogiques. Expliquez-nous ces outils, des sortes de kits, je crois.
Alors, notre équipe éducation, notre pôle éducation a mis au point une maquette eau, ce qu'on appelle la maquette eau, c'est un outil qui est fait pour expliquer tout le cycle de l'eau. Donc, c'est une maquette qui représente une montagne avec ses ruisseaux, avec ses vallées, avec la plaine. C'est un outil qui fait à peu près 1 mètre carré, hein, c'est un gros outil en relief. Et donc sur cet outil, on peut pulvériser de l'eau avec un pulvérisateur et voir comment la pluie va descendre dans les vallées, quel cours elle va suivre. Qu'est-ce qui se passe quand on met un barrage, par exemple, sur le lit d'une rivière? Le barrage va être fonctionnel, va se remplir. Qu'est-ce qui se passe si l'eau passe par-dessus le barrage? Quels dégâts ça peut occasionner en dessous? On peut mettre en place une ville, par exemple, avec son point de captage des eaux.
Oui.
Et oui, sa station d'épuration. Voir qu'est-ce qui se passe quand on met une ville, comment l'eau réagit. On peut mettre en place une centrale nucléaire, par exemple, pour expliquer comment l'eau est réchauffée aux sorties d'une centrale. On a des modules aussi qui sont des champs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met en place des champs de grandes cultures sur des zones qui sont en pente? Comment l'eau ruisselle dessus? Et on s'aperçoit sur la maquette que l'eau ruisselle beaucoup plus vite sur des zones de grandes cultures qui sont dénudées que sur des zones de bocage où il y a des arbres. Donc, toute cette maquette est là en place pour expliquer et démontrer le cycle de l'eau.
Alors, ces maquettes, elles sont observables où vous les...
Alors, elles sont observables sur nos animations. On fait des animations régulièrement avec. Elles ont été testées dans beaucoup d'écoles du département. Et elles sont également en prêt pour nos associations membres, pour qu'ils puissent faire des animations tout simplement avec.
Alors, vous organisez aussi des sorties nature, et notamment les 24 heures naturalistes. Alors, ça consiste en quoi, Éric Breton?
Alors, les 24 heures naturalistes, ça a été fait à l'origine pour aller prospecter d'une façon naturaliste un endroit qui était assez méconnu, un endroit de l'Isère qui est assez méconnu. Par exemple, cet automne, là, on a fait la plaine de Bièvre, où on avait assez peu de données naturalistes. On avait quelques données, mais assez peu. Et donc, c'est un rassemblement de naturalistes qui sont soit des experts, soit des novices. On fait des équipes, on essaye de mettre un expert avec des novices, de façon à ce qu'il y ait une transmission du savoir aussi. Et puis, on part avec nos jumelles, avec nos lunettes, pour observer les oiseaux, pour observer ce qui se passe dans la nature. On note ça, cette année on a noté ça sur des tablettes, hein, sur une application qui s'appelle Naturalist, tout simplement. On revient et on fait le bilan de ce qu'on a vu. On est sorti, moi j'ai participé, on est parti le matin à 3 personnes. On a fait plus de 40 observations différentes d'oiseaux. Donc on essaie de les identifier avec des guides. Ça permet aux novices d'apprendre comment on identifie un oiseau au contact des experts. Et puis ça permet de recruter toute une masse d'informations qu'on n'avait pas sur un secteur donné avec ce moyen-là, quoi.
Vous avez découvert des oiseaux nouveaux?
Alors on a découvert des oiseaux nouveaux. On a découvert un très grand dortoir d'une espèce dont je ne révélerai pas le nom parce que c'est une espèce très rare qu'on veut absolument pas qu'elle soit dérangée. Mais oui, en plaine de Bièvre, on a découvert plus d'une centaine d'oiseaux qui sont des oiseaux très rares.
Alors là, vous avez des sorties qui sont organisées. Je vois un programme de sortie nature. Le prochain programme, c'est quoi, Éric Breton?
Alors la prochaine...
Alors, je vous laisse ouvrir. Je crois que c'est le 23 janvier.
La prochaine sortie, oui, samedi. Ça doit être le 23 janvier. C'est au Mangeoire pour venir dans les parcs et jardins de l'agglomération, venir voir qu'est-ce qui se passe et quels sont les oiseaux qui viennent manger au Mangeoire, qui viennent se nourrir. Et donc, on découvre des oiseaux qui sont à l'origine très forestiers, mais qui viennent dans les parcs parce qu'on a de très beaux arbres, notamment du côté du parc Paul Mistral et du jardin botanique, et qui attirent pas mal d'espèces d'oiseaux qui sont plutôt des oiseaux forestiers.
Alors, vous voyez, la nature est au cœur de la ville aussi. Alors, vous faites aussi des campagnes d'action, à sensibilisation, action. Vous êtes très actif à la FRAPNA. Et je pense notamment aux campagnes d'action contre les pesticides qui concernent tout le monde.
Alors oui, on fait des campagnes d'action contre les pesticides parce que c'est vrai que les pesticides empoisonnent nos sols, empoisonnent la vie naturelle, et puis nous empoisonnent aussi, ça c'est grave. Et en fait, on a beaucoup de façons de se passer des pesticides. Par exemple, on me dit souvent, oui, mais dans mon jardin, j'ai des herbes dans ma cour qui sont résistantes et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Tout simplement, vous prenez la casserole d'eau bouillante qui vous reste quand vous avez fait cuire vos pâtes, vous allez la verser sur le pissenlit qui vous embête au milieu de votre cour et qui veut absolument pousser là, et vous verrez que votre pissenlit, vous en êtes débarrassé sans aucun pesticide, sans aucun embêtement, très facilement en fait, et puis à moindre coût bien sûr.
Voilà, c'est notre Jacques le jardinier avant l'heure. Jacques, on retrouve tous les samedis sur France Bleu Isère. Donc vous avez compris, les pesticides c'est fini, casserole d'eau bouillante c'est simple, non? Éric Breton, vous restez avec nous, on va parler un petit peu des animaux, ces fameux animaux que vous captez avec votre appareil. On en parle d'ici une minute sur France Bleu Isère. France
voyage et nous font partager leur aventure.
Jean-Claude Cognard est un ex-médecin qui habite Vif. Il est amoureux du désert marocain, un désert qu'il parcourt régulièrement à moto. Cette semaine, il nous raconte donc une autre façon de découvrir cette partie du Sahara.
Retrouvez notre voyageur isérois à 17h35 sur France Bleu Isère et sur francebleu.fr.
Sélection événement France Bleu Isère.
France Bleu Isère a sélectionné pour vous la dictée du cœur au profit de l'association L'Enfant Bleu. Dictée, correction et remise des prix le 23 janvier. Tous à vos copies à l'auditorium du musée de Grenoble à 16h sans faute.
France Bleu Isère.
Après 10h, Éric Breton, notre invité. On rappelle que vous êtes membre de la FRAPNA Isère et également photographe animalier. Et c'est un vieux bouquetin que vous avez découvert en Maurienne qui a déclenché cette vocation. Racontez-nous, Éric Breton.
Oui, tout à fait. On était parti pour essayer de faire des photos de bouquetins. C'était ma première sortie bouquetin dédiée à cet animal. Et puis, j'ai découvert, pratiquement au départ de la balade, un bouquetin qui était dans les rochers. Et j'ai commencé une approche. Alors, c'était mes débuts. J'ai fait tout et n'importe quoi. Et surtout, ce qu'il fallait pas faire. Donc, j'ai fait une approche directe, droit dans la pente, en faisant tomber plein de cailloux, en faisant beaucoup de bruit. Voilà.
Des fois que ça l'effraierait. Hein.
Voilà, en pataugeant dans la boue et tout. Et le bouquetin m'a regardé faire. Il m'a regardé arriver vers lui. Et puis, quand je suis enfin arrivé vers lui pour faire quelques clichés, il s'est couché sur les rochers et puis il s'est endormi, tout simplement. Il m'a absolument toléré là, alors que j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait pour le faire fuir. Et donc, ça m'a donné envie de découvrir un peu plus ces animaux qui sont vraiment des animaux tolérants quand on sait les approcher comme il faut.
On a bien compris. Hein.
Voilà. Et pas comme je l'ai fait ce jour-là.
Et du coup, vous passez votre réveillon de Noël régulièrement avec les bouquetins, je crois.
Très souvent. C'est une petite tradition que je me suis autorisé à vivre. Tous les ans, à Noël, aux ans de Noël, j'essaye de monter voir les bouquetins dans la neige le plus souvent. Cette année, c'était pas dans la neige, mais c'était en Chartreuse. Et c'était un moment merveilleux parce que j'ai découvert deux cabris de l'année qui sont donc nés au mois de juin. Et puis qui étaient là avec leur mère, hein, qui s'appelle une étagne, la femelle du bouquetin. Oui. Et donc qui ont commencé à se chicorer, à se battre et à se mettre des coups de corne devant moi avec des pleins de cabrioles, hein, comme on connaît ces petits animaux-là. Et donc ça a duré des heures. C'était vraiment très très sympathique avec une belle lumière en plus. J'ai sorti de très belles photos. Ouais.
Et puis vous avez d'ailleurs assisté à la réintroduction des bouquetins en Chartreuse, Éric Breton.
Oui, tout à fait. On avait travaillé avec le parc de Chartreuse, avec trois autres amis photographes, pour leur fournir les photos de toute la réintroduction. C'est-à-dire les réunions préparatoires, les réunions qui expliquaient aux habitants de Chartreuse ce qui allait se passer, les captures qu'on a faites d'une part en Belledonne et d'autre part en Vanoise, les lâchers qu'on a fait aussi au petit matin, et toute cette opération, toute cette aventure avec les gens du parc de Chartreuse, avec les gens des autres parcs, c'était vraiment aussi une aventure humaine. Et puis quand maintenant vous montez en Chartreuse et vous voyez un petit bouquetin qui est né là, Moi, quelque part, je suis très très fier d'avoir d'avoir participé à ça, d'avoir mis ma petite goutte, comme le colibri hein, qui est à l'incendie, d'avoir amené mon petit coup de pouce pour que ça soit possible.
Alors, bon, on a notre petit colibri dans les studios de France Bleu Isère. Alors, vous êtes attaqué à une bête un peu plus féroce, un peu plus imposante, l'ours. Vous êtes allé en Finlande, Eric Breton. C'était votre premier ours.
Oui, c'était mon premier ours, oui. J'ai décidé qu'il fallait, dans une vie de naturaliste, avant d'atteindre la cinquantaine, il fallait avoir vu un ours pour avoir réussi sa vie de naturaliste. Donc, pour ce faire, je suis allé en Finlande, parce qu'en France, on a quelques ours dans les Pyrénées, mais les pauvres, on risque pas de les voir, parce qu'ils sont vraiment, très farouches. Donc, je suis allé en Finlande. Donc là-bas, il y a des affûts à ours qui sont organisés le long de la frontière russe, dans un no man's land où normalement on n'a pas le droit d'aller, il faut des autorisations spéciales, oui, tout à fait. Ouais. Et donc vous entrez dans une petite cabane hein, en bois, en contreplaqué, vous fermez avec une targette qui est grosse comme la moitié de mon petit doigt, et puis vous vous installez là et on vous dit l'ours va venir. Donc vous guettez de partout absolument pour voir si l'ours va arriver. Et puis tout d'un coup, une heure après, l'ours est là. Et je ne l'ai absolument pas vu venir, ni perçu, alors que c'est un animal qui fait 250 kilos, et que j'étais vraiment à l'affût, tous les sens en éveil pour le découvrir. Et tout d'un coup, il est là, devant vous, et vous commencez les photos, et il va se mettre exactement aux endroits où vous aviez rêvé qu'il aille se mettre. Oui, oui. C'est un ours qui est connu dans le coin, ils lui ont trouvé un nom parce qu'il a une cicatrice sur le nez, donc il s'appelle Yogi, c'est un nom finlandais. Hein. C'est un ours qui est très reconnu depuis une dizaine d'années, ils le suivent, il vient régulièrement se nourrir des déchets de saumon qu'on met à sa disposition. Et ce qui est sympa, c'est que via les réseaux sociaux, j'ai maintenant des photos qui me viennent de Finlande où je redécouvre cet ours Yogi.
Votre copain.
Il a plein de copains dans la nature,
Yogi, ouais, tout à Eric fait, ouais. Breton. Il a des bouquetins, des ours. Donc même pas peur, l'ours gentil.
Alors, je ne vous dirais pas que je n'ai pas eu peur. Si, j'ai eu peur. Mais en fait, l'ours a peur de l'homme. Là-bas, en Finlande, il est encore chassé. Hein, il tue une dizaine d'ours par an. Et donc, l'ours a peur de l'homme. Par contre, quand vous voyez une bête de 250 kilos devant vous, avec les griffes que ça a, évidemment, oui, il y a une crainte ancestrale qui remonte. Hein. On ne peut pas s'empêcher de la voir. On essaye de ne pas trembler pour faire les photos.
Elles sont nettes, ces photos. J'ai vérifié. Eric Breton, vous ne bougez pas. On va encore raconter des petites histoires à votre propos avec la question à l'invité. Ce sera juste après Pascal Obispo sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Le secrétaire du Pascal Obispo sur France Bleu Isère.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Éric Breton, c'est le moment de la question à l'invité. Vous avez choisi un ami photographe avec lequel vous partez en expédition régulièrement. C'est Loïc Novak, il est là en direct au téléphone. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Vous dites bonjour à Loïc.
Bonjour Loïc.
Éric, quand même, il faut tout leur dire à chaque fois. Tous les jours, c'est la même chose. Loïc, allez, vous avez une question à poser à Éric. Allez-y, il vous écoute avec un grand sourire.
Oui. Donc, on sait qu'Éric a un animal de prédilection, oui. C'est le poussin.
Oui.
Alors Éric, est-ce qu'il y a d'autres espèces que tu aimes particulièrement photographier ou qui t'ont intrigué?
À part l'ours.
Oui, bien sûr, il y a des tas d'autres espèces. Je me rappelle d'une fois avec toi, c'était encore aux alentours de Noël, puisque en général, à Noël, j'essaye de faire des sorties, puisqu'il y a un peu de vacances en général. On était là-bas en montagne, dans ton jardin, en Maurienne, pour essayer de trouver le lagopède, cette fameuse poule blanche des montagnes.
C'est magnifique, hein, j'ai vu la photo, parce que je ne savais pas ce qu'était un lagopède.
Oui, c'est un très bel oiseau. Un très bel oiseau qui vit en haute altitude toute l'année. Et puis, moi, je voulais essayer aussi de voir le lièvre blanc, puisque Loïc, c'est un grand spécialiste du lièvre variable. C'est le roi de la volaille blanche des montagnes.
Waouh !
Et ce jour-là, on avait trouvé des bouquetins. Et puis, on observait un troupeau de bouquetins qui était à 2400 mètres d'altitude, très haut dans la montagne, dans la neige, dans un couloir d'avalanche. Et Loïc, à un moment, me dit, il y a un cerf là-haut. Alors, on a l'habitude de se faire des plaisanteries entre nous. Et je dis, oui, bien sûr, il y a un cerf là-haut, bien sûr, dans la neige, au mois de décembre. Et en fait, dans les jumelles, il y avait un cerf et une biche. Et on a fait à 2400 mètres d'altitude, avec un troupeau de bouquetins, un endroit où on ne s'attendrait pas à trouver un cerf à cette période de l'année, surtout où il n'y a absolument rien à manger. Et le cerf est un animal qui est quand même assez lourd, hein, 200 kilos. Et bon, dans la neige, il n'est pas du tout adapté. Et pourtant, il était monté jusque là-haut avec ses troupeaux de bouquetins, oui.
Qu'est-ce qu'il faisait là, ce cerf? Tu viens avec nous.
On n'a jamais su ce qu'il faisait là. Ce qui s'est produit quand même, c'est que notre ami Loïc, qui restait sur place là-haut en Maurienne quelques jours, a réussi à cet endroit-là à photographier l'accouplement des bouquetins deux jours plus tard. Une photo très très rare que moi personnellement j'avais jamais vue et qui était assez surprenante parce qu'il y a beaucoup de spécialistes des bouquetins qui croyaient qu'ils ne s'accouplaient que la nuit, alors que là on a une photo en plein jour qu'il a réussi à faire avec son objectif et avec sa connaissance de l'espèce et de la montagne aussi.
Voilà, donc il n'y a pas d'heure non plus pour les bouquetins.
Tout à fait.
Et le cerf n'était plus là, par contre.
Et le cerf n'était plus là, ouais. Il les a laissés tranquilles. Ah ben, il est discret, le cerf, hein, que voulez-vous, Loïc. En tout cas, merci beaucoup d'avoir posé cette question à Éric Breton, qui nous a donné l'occasion d'une jolie histoire. Merci à vous, Loïc. Passez une excellente après-midi. Au revoir.
Vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Éric Breton, merci beaucoup de nous avoir raconté votre passion de la photographie animale, de nous avoir parlé de la Frapna. On mettra bien sûr le lien du site de la Frapna sur le site francebleu.fr, parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez aller voir. Merci à vous, excellent après-midi, au revoir.
Au revoir.